Bonsoir, bienvenue sur Jean Rage. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 juin et pour cette 9e émission, nous allons parler de deux thématiques d'actualité. La première concerne la Gay Pride. Pour cela, nous allons premièrement diffuser un mini-reportage qui a été fait par Amandine et Suzanne lors de la Gay Pride, qui est composé d'entretiens avec les assos qui étaient présentes. Et puis Suzanne reviendra un peu sur justement les assos qui étaient présentes, leur mode d'action, c'est ça, si je me trompe pas. Et puis les positions qu'elles prennent vis-à-vis des luttes LGBT de manière générale. Et elle nous parlera aussi de la manière dont étaient invisibilisées les luttes transsexuelles. C'est ça ?
Trans, ouais.
Ok. Et puis, dans une deuxième partie d'émission, on reviendra sur un compte-rendu d'un séminaire qui a eu lieu le même jour, donc samedi 1er juin, qui s'intitulait « Suite des révolutions arabes, quelle participation des femmes au changement social ?» qui a eu lieu à la cave des Célestines dans le Vieux-Lille. Et qui avait été organisée par l'Association des Tunisiens du Nord de la France. Sans transition, je vais vous mettre tout de suite le petit reportage d'Amandine et Suzanne.
Nous qui pouvons marcher, nous allons le faire pour ceux qui ne le peuvent pas encore.
Et je suis chargé de projet en prévention à l'association Aide.
Aide, depuis combien de temps est-ce qu'elle participe à la Gay Pride depuis le début ?
Depuis le début, ouais. Okay. Ouais. Aide participe depuis le début et c'est une décision de l'association, en fait, du conseil d'administration de l'association, de participer partout où il y a une lesbienne et une gay pride sur le territoire, partout où on est, et même quand on est en mission à l'étranger et que c'est au moment du pride, on y va.
D'accord, ok. Et tout à l'heure, il y a les élus qui sont intervenus et il y avait différentes interventions, à la fois des députés, des élus. Et qu'est-ce que tu penses de leur intervention Est-ce que tu es en accord avec les revendications? Forcément avec les revendications, mais avec la forme.
Je pense que c'est important qu'ils soient là. Ça montre que une marge de fierté, ça fait partie de la société maintenant, comme pour tout. Comme un élu viendrait pour une grande fête du sport ou pour inaugurer n'importe quelle grande manifestation, en fait. Ouais. Il y a des présents d'élus et il y a encore un certain nombre d'années, il n'y avait pas d'élus. On envoyait éventuellement un représentant de la mairie qui venait faire son petit discours, mais c'est vrai qu'avoir la présence de députés et puis parfois même de représentants de la préfecture, c'est quelque chose d'assez nouveau.
Karine, je suis secrétaire au CRSH, le comité de reconnaissance sociale pour les homosexuels.
Et voilà. Quand est-ce qu'elle est née l'association? En quoi elle consiste? Parce que nous, on ne connaissait pas, en fait, on vient de la découvrir.
Il me semble que l'association doit être née depuis 1995.
Quelles sont les principales luttes de l'association?
On lutte contre toutes les discriminations.
Ok. Et quelle forme ça peut prendre? Est-ce que ça va être des interventions dans certains lieux? Est-ce que c'est parce que vous avez un lieu et les gens peuvent venir voir?
En fait, l'association fait des permanences le mercredi soir. Elle intervient aussi dans les lycées, éventuellement. Si on nous demande, donc on intervient en milieu scolaire. Ensuite, on lutte aussi contre la solitude en faisant des après-midi jeux de société. Il y a aussi des soirées cabaret qui se passent à l'association. Ça se passe de temps en temps à la MDA de Lille. Pour les soirées cabaret, ça se passe au centre Corneille à Villeneuve-d'Ascq.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il y a aussi des projections de films une fois par mois, que ce soit des films gays ou des films lesbiens. On essaye à chaque fois de faire une projection de film.
Et ça se passe où?
Ça se passe au Méliès ou alors à la MDA.
D'accord. Donc du coup, le film Weekend qui a été projeté il y a pas longtemps, c'était
en partenariat avec l'association.
Ouais. Ah,
mais je pense que celui qui a dû être fait là cette semaine, c'était plus pour la LGP.
Pourquoi est-ce que vous venez sur la Gay Pride? Quel est le sens? Quel sens vous donnez à la Gay Pride par rapport à l'assaut et de manière générale?
Par rapport à l'assaut, nous on fait une action sur l'homophobie. Parce qu'on on est une asso qui lutte contre la discrimination due à l'orientation sexuelle, parce que on a encore le combat continue, le don du sang, la PMA, toutes ces actions doivent continuer, même si le mariage pour tous est passé.
Du coup, c'est aussi l'occasion de mettre en avant de nouvelles luttes et de redonner une espèce de vecteur de voilà, engranger de nouvelles énergies,
tout
etc.
À fait, ouais. Okay. Tout à fait.
Et qu'est-ce que tu penses de la présence des élus au sein de la Gay Pride? Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu trouves ça consensuel ou est-ce que tu trouves que ça concorde avec la position de l'association de l'OGP?
Alors nous, on est une association apolitique. Ouais. Mon positionnement par rapport aux élus, personnellement, ils sont là, ils sont pas là, ça ne change pas spécifiquement l'action que nous, on mène sur le terrain.
D'accord. Et SOS Homophobie-Lille, elle existe depuis combien de temps?
On est sur la région Nord-Pas-de-Calais, hein, on sillonne vraiment toute la région Nord-Pas-de-Calais dans nos interventions en milieu scolaire. On est présent depuis maintenant 4 ans à peu près. On n'a pas de locaux spécifiques, mais on se réunit tous les premiers mercredis du mois à la Maison des Associations.
La Gay Pride et raison finalement de la présence de planning familial.
Alors dans nos actions on a une lutte, c'est la lutte contre le sexisme. Disons que j'aime bien reprendre le slogan qu'avait là. Mouvement féministe et mouvement homosexuel, non pas à l'aide solidaire, parce que ce sont pas deux causes parallèles. Une convergente, mais une seule et même cause, en ce sens, être féministe, c'est nécessairement être contre l'homophobie, militer contre l'homophobie, c'est nécessairement militer contre le sexisme.
Et ensuite, est-ce que les actes du planning familial en particulier, est-ce que vous pouvez en parler brièvement?
Alors, on a de très très nombreuses actions. Alors, celles pour lesquelles moi je participe, déjà on a nos locaux ici où on reçoit donc. Personnes pour des. Donc on a des médecins qui reçoivent gratuitement des personnes jusqu'à 20 ans. Donc ça permet à toute personne de pouvoir avoir un médecin sans forcément avoir les parents derrière ou devoir parler de sa sexualité à des personnes. Donc on est plus libre du coup de vivre sa sexualité. Et en plus dans nos locaux, on peut voir donc des conseillères donc gratuitement. Et ce qui permet aussi d'avoir ses premières, on va dire ses premiers émois et sa première vie sexuelle dans une certaine intimité, sans encore une fois devoir en parler à tout l'entourage. Ça permet, on a beaucoup de femmes hein, forcément, et ça leur permet de pouvoir s'épanouir librement, avoir les bonnes informations pour pouvoir démarrer. Sexualité, pas.
Vous représentez les Flamants Roses et en fait donc il y a eu la Pride tout à l'heure et je voulais savoir si qu'est-ce que vous avez pensé en fait de l'intervention des élus au sein de la Pride? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec le fait que les élus aient une visibilité ou pas?
Bah en fait, moi, c'est comme à chaque rassemblement qui a eu lieu, qui est les derniers mois, quand on a fait des marches pour l'égalité, il y a un collectif régional égalité qui s'est monté, donc qui a organisé ces rassemblements, manifestations. Et du coup, il y a souvent des élus qui étaient invités à parler. Et moi, ça me pose problème, en fait. Prennent la parole à notre place. Enfin, je trouve qu'on pourrait laisser la parole à d'autres personnes pour parler de la lutte que nous menons, quoi. Les associations qui savent aussi de quoi on parle. Quand Dalila Denouga dit on vous remercie d'avoir été à nos côtés pour la lutte, pour le mariage, et du coup je ne comprends pas, quoi. C'est nous qui avons été à côté des députés pour qu'ils votent la loi, pour qu'ils appuient sur un bouton, comme Bernard Roman a dit tout à l'heure, on a appuyé sur un bouton. Ouais d'accord, vous appuyez sur un bouton, mais nous, on subit de l'homophobie, de la lesbophobie, de la transphobie toute l'année. Je sais pas, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte aussi de la lutte qu'on met nous.
que par rapport à justement la Pride, vous pensez qu'il y avait que c'était l'occasion de mettre en avant d'autres questions, en fait, d'autres luttes, les luttes qui vous paraissent autant importantes, voire plus, en fait, que les questions, soit des questions des droits au mariage, à la filiation, etc. Et par exemple, l'invisibilisation des questions trans. Est-ce que vous pensez que c'était un enjeu important aujourd'hui?
Ce qui est visible dans la lutte LGBT, c'est la lutte pour l'égalité et la question du mariage. Alors déjà, nous, on est une association féministe, donc on est plutôt critique vis-à-vis de l'institution du mariage en tant qu'institution patriarcale. Néanmoins, ça nous semble la moindre des choses qu'on ait l'égal accès à tous les droits. Mais alors du coup, tout ça a complètement invisibilisé d'autres revendications. Déjà, la PMA, la GPA, c'est passé à la trappe. Et puis surtout, du coup, on n'a jamais parlé de transphobie. C'est complètement passé aux oubliettes, les revendications du mouvement trans. Et voilà, ça, pour nous, c'est absolument catastrophique. Ça peut même laisser soupçonner un recul là-dessus, en mode les gens, ils vont se dire que ça y est, on a gagné des droits, il n'y a plus à lutter. On peut craindre que les gens ils se disent qu'en fait, il n'y a plus de LGBT-phobie aujourd'hui, alors qu'il y en a plein.
Alors merci à tous les marcheurs et à toutes les marcheuses lilloises de France, d'Europe, du monde. Nous vaincrons face à ces haines d'un autre temps.
Voilà, donc là, les dernières qu'on a entendues, c'était les sœurs de la perpétuelle indulgence. Et donc, je vous fais un petit retour rapidement sur les associations qu'on a interrogées, très rapide. Donc, il y avait la première personne, c'était un intervenant de AIDS. Ensuite, il y avait une intervenante de l'association CRSH, le Comité de reconnaissance sociale des homosexuels. Donc, je vais la présenter très brièvement parce que elle est quand même moins connue que AIDS et puis ses actions sont également moins connue. Alors, comme l'intervenant disait, si jamais vous n'avez pas vraiment bien entendu, l'association organise une permanence à la Maison des Associations de Lille chaque premier samedi du mois. Il y a des soirées cabarets qui sont organisées au Centre Corneille à Villeneuve-d'Ascq et des projections de films gays et lesbiens au Méliès. Et ils organisent également des interventions dans les écoles. C'est également le cas de SOS Homophobie, qui organise également des interventions dans les écoles et donc qui lutte également contre les discriminations à l'égard des personnes homosexuelles. Ensuite, il y avait donc le planning familial qui est intervenu et donc qui la personne qui intervenait au nom du planning familial précisait que et donc ça c'est peut-être quelque chose à rappeler que je trouvais assez intéressant, que la lutte contre l'homophobie et le sexisme sont une seule et même cause et c'est une des c'est un des slogans, on va dire, du planning familial. Et donc le planning familial, comme vous le savez peut-être, donc ont des locaux pour recevoir gratuitement des personnes jusqu'à l'âge de 20 ans afin de préserver un espace qui ne soit pas envahi par le contrôle des familles et le contrôle parental et qui permette une plus grande liberté dans la vie de sa sexualité. Et enfin, les dernières personnes qui ont été interrogées, c'était des militantes des Flamants Roses, qui est donc une association qui fait partie du centre Jean Sugirest, le centre LGBTQIF de Lille, et qui donc est la plus connue des associations parce que c'est la plus ancienne, la plus visibilisée et également la plus politisée. Les dernières qui étaient donc les sœurs de la perpétuelle indulgence. Alors, les sœurs de la perpétuelle indulgence, pour celles et ceux qui ne les connaisseraient pas, sont nées en fait en 1979 à San Francisco. Je suis allée regarder sur leur site parce que je savais pas non plus en quelle année elles étaient nées, et elles sont nées à partir d'un groupe militant homosexuel et sont ensuite un peu diffusées dans l'ensemble de façon internationale, on va dire, en France, en Espagne, en Angleterre, enfin que sais-je, et elles se définissent comme des folles radicales. Et donc je suis allée un peu sur leur site et en fait je les connaissais, j'aime pas dire ça, de réputation, j'allais dire, on va dire de d'aura, parce qu'elles ont comme ça une visibilité, leurs performances sont assez intéressantes. Donc je suis allée un peu sur leur site et j'ai regardé leur charte, parce que donc elles jouent énormément sur le langage et donc sur l'association avec un discours religieux davantage judéo-chrétien, en fait, même chrétien, faisant référence à des oui, il y a des valeurs chrétiennes, tout en évidemment les détournant et en se donnant une espèce de visibilité, donnant une visibilité aux folles et aux personnes qui ne s'identifient pas de façon conventionnelle au genre et qui défendent évidemment, qui luttent également évidemment contre l'homophobie. Donc les principes de leur charte sont la joie multiverselle, l'expiation de la honte et de la culpabilité stigmatisante, la paix et le dialogue entre les communautés, la charité, l'information et la prévention sur le VIH et les IST, et le droit et le devoir de mémoire. Donc c'est assez drôle parce que elles ont un discours en fait apparemment très moralisant, qui est évidemment performatif et qui est évidemment complètement provocateur et qui n'est pas à prendre au premier degré mais au XX degré. Et donc en fait leur lutte, ça s'organise autour de happening, d'animation théâtrale, que ce soit dans la rue, dans l'espace public ou privé, etc. Voilà. Donc là, c'était pour la présentation brève des associations. Ensuite, je voulais revenir très brièvement sur, en fait, une des questions qu'en fait je posais à répétition aux associations, et elles ont répondu chacune différemment. C'était à propos de la présence des élus, parce qu'il me semblait que à la lesbienne Gay Pride, la présence des élus était quand même un enjeu à un peu questionner. C'est-à-dire que finalement, donc certes, c'est une marche des fiertés qui est à la fois politique et à la fois festive, voilà, qui mêle ces deux enjeux-là. Et donc le fait que les élus soient là pour rappeler leur présence comme au centre de la scène, comme s'ils étaient au centre de la scène LGBT, personnellement, je trouvais ça assez mais je le ressentais comme quelque chose d'assez problématique. C'est-à-dire que finalement, on s'arroge le droit de parler à la place de toutes les personnes LGBT et de bon, évidemment, ça a également sa légitimité, ça se discute. C'est pour ça que je questionnais les associations. Et donc, du coup, qu'est-ce que m'ont répondu les associations? Pour la plupart, en ce qui concerne, par exemple, la personne qui représentait AIDS, était en fait finalement assez content de la présence des élus, puisque finalement, mais c'est également complètement compréhensible, c'est que ça donne une visibilité et ça donne une légitimité en fait à la lutte, et donc ça prouve qu'il y a un soutien étatique et national à la lutte LGBT. Donc évidemment quelque chose qu'on peut, enfin, qui n'est pas négligeable. Ensuite, à côté de ça, SOS Homophobie précisait que c'était une association apolitique et du coup que la personne qui la représentait ne pouvait pas se prononcer sur la légitimité ou pas, enfin finalement même son avis sur la présence des élus, puisqu'elle était là en tant que représentante du soutien social qu'apportait SOS Homophobie. Ça représentait, je pense, en fait, finalement, ces deux opinions, je pense, représentaient finalement une position, l'activisme en fait derrière, enfin qu'ils mettent en place, c'est-à-dire un activisme qui se base avant tout sur des questions sociales et sur des questions de prise en charge en fait de vécu et qui donc ne lutte pas pour des revendications politiques. Et ce n'est pas le cas des Flamants Roses que j'ai interrogé et qui disaient que à part donc évidemment qu'ils sont avant tout pour l'égalité des droits, en fait ça devrait être une évidence, mais que la présence des élus est vécue comme une forme de spoliation de parole, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que, et puis donc du coup l'une des personnes que j'ai interrogées disait que Dalida Dendouga, elle citait que Dalida Dendouga, je précise, donc c'est la jointe de Martine Aubry en charge de l'égalité des droits, et qui qui donc a dit on vous remercie d'avoir été à nos côtés. Et donc en effet, c'est vrai que c'est quand même assez
c'est une forme d'appropriation, quoi.
Exactement, ouais, d'appropriation politique, de lutte quotidienne, en fait, qui enfin, et puis en plus oui, exactement, c'est une forme d'appropriation
et du coup de des empowerment de des personnes qui sont actives dans la lutte, quoi. Mm. D'une certaine manière, je pense. Mm.
C'est clair. Voilà, donc ça, c'était un bref retour là-dessus. Je voulais pas trop m'attarder de plus. Je sais pas, peut-être qu'on peut
passer... Si, on va vous mettre une petite chanson, peut-être, et puis on revient juste après avec Suzanne, qui voulait revenir sur donc les revendications trans qui ont été invisibilisées avec d'autres débats cette année. Tout de suite, on vous met un petit morceau de musique, The Organ, Love, Love, Love. Voilà, on est de retour. Et donc là, comme prévu, j'aborde un peu brièvement, en fait, les revendications politiques des mouvements trans, puisque, comme l'avait précisé les Flamants Roses juste avant, lors du reportage, et c'est une position que je partage, le débat politique de cette année, dont on a également parlé avec Zab ici, enfin... aussi important qu'il est, a contribué à complètement invisibiliser les revendications des mouvements trans
et à faire supposer que finalement les luttes LGBT n'étaient que concentrées contre l'homophobie et non pas contre la transphobie. Et donc, ben, je pense en fait que c'est vraiment un problème. Et du coup, je suis allée sur le site de l'Observatoire des transidentités, qui a été fondé par Maud Yeustomas. Et je suis allée voir un article de l'association Outrans qui a été fondée en 2009 et qui se définit comme une association d'autosupport trans, par et pour des trans. Et en fait, cette association déjà se positionne contre une position victimisante qui en fait montrerait les trans comme étant victimes d'un système qui les opprime et qui les ils sont donc du coup une association qui lutte pour une position affirmative pour la pluralisation des transidentités et non pas pour la réification des personnes trans à l'intérieur d'une même identité trans qui soit finalement hyper homogénéisante. La personne qui avait rédigé l'article écrivait de façon très juste, trouvait, enfin en tout cas c'était assez frappant, disait de la même manière que les féministes ont critiqué l'homogénéisation de la catégorie femme, nous mettons également en place un système d'autocritique des identités trans qui ne peuvent pas se réduire à une seule catégorie homogène. Et l'association Outrans, donc Outrans, se base sur des concepts du féminisme, utilise la théorie féministe comme une boîte à outils un petit peu pour essayer d'analyser les rapports de pouvoir qui produisent de la transphobie notamment. Et voilà, donc quelles sont leurs positions quelles sont les positions que principales du mouvement trans que l'association Out Trans représente là, enfin que je présente. Déjà, ils sont contre les différenciations dans le discours psychiatrique entre les transgenres et les transsexuels. Puisque donc d'un point de vue dans le discours psychiatrique, dans le discours des psychologues, dans le discours des médecins, etc. Mais même dans le discours médiatique de manière générale, certaines personnes différencient les personnes transgenres des personnes transsexuelles, qui en gros différencieraient les personnes qui n'ont pas eu de réassignation sexuelle, de chirurgie de réassignation sexuelle, et les personnes qui aurait eu recours à des chirurgies plastiques. Donc pourquoi est-ce qu'il rejette ces catégories, cette différenciation dans le discours? Et c'est parce que tout simplement elles viennent justement de la psychiatrie et elles viennent justement d'une conception psychiatrisante, en fait pathologisante, des identités, qui donne plus ou moins de valeur aux identités et qui contrôle en fait les personnes en faisant en fait des divisions, en disant voilà telle personne qui bascule du côté de cette barrière et telle personne bascule pas du côté de cette barrière. Et du coup elle produit toute une échelle de souffrance, elle produit toute une échelle de catégories qui valide des sujets, qui en invalide d'autres. Voilà la raison pour laquelle ils rejettent les catégories, donc les termes de transsexuel, les termes de transgenre, que bien sûr ils réemploient, mais dans des contextes distanciés, c'est-à-dire pour citer, quand ils se citent de la même manière qu'on se dit par exemple quand on dit meuf gouine transpédée, quoi, par exemple, c'est une façon de se réapproprier une catégorie identitaire. Voilà. Ensuite. Ce que disait la personne qui écrivait l'article, c'est que il y a encore un énorme contrôle de l'État pour le changement d'état civil, qui sans opération chirurgicale, c'est-à-dire que l'État exige encore, sauf exception extrêmement rare et demande de recours à la jurisprudence, que le changement d'état civil ne soit possible que si l'on a recours à une opération chirurgicale de réassignation sexuelle. Voilà, donc c'est quand même énorme. Et voilà, donc ensuite le
en même temps sans vouloir te couper, ça me paraît enfin logique vis-à-vis de la politique de l'État, enfin des États de manière générale, dans la mesure où de toute façon ils considèrent qu'il faut qu'il y ait correspondance entre un corps biologique et une identité de genre, forcément d'un point de vue juridique ça a des conséquences, et ils doivent pour pas être dans une mesure illogique, quoi, pour être en cohérence avec leur propre politique, c'est normal, entre guillemets normal, hein, je dis pas que c'est normal et que ça doit être comme ça, mais je trouve ça logique qu'ils demandent à ce qu'il y ait cette correspondance là sinon il faudrait qu'ils remettent en question tout leur système de catégories et de nominations, etc., quoi.
Oui, c'est clair. C'est clair. Après, ça prend des proportions inhumaines, puisque, en fait, concrètement, le changement d'état civil qui impose une opération de réassignation sexuelle irréversible, en fait, et en fait, des prises hormonales irréversibles, en fait, concrètement, ça veut dire stérilisation forcée. Ça veut dire qu'en gros, t'es stérilisé à vie. Donc c'est quand même pas rien.
Ouais, non, mais je comprends. C'était pas du tout pour minimiser l'acte.
Bien sûr.
Mais faudrait en gros que le gouvernement considère, considère que la théorie du genre soit plus une théorie, mais soit un état de fait finalement, pour pouvoir ensuite passer à une reconnaissance à partir de cette différence entre identité de genre et corps biologique ou biologisé, même, on pourra dire, on pourra revenir sur ce débat un autre jour. Faudrait qu'on passe par là avant de pouvoir passer à autre chose, quoi. Donc ça me paraît pour l'instant, en tout cas, relativement logique que l'État fonctionne de cette manière-là, quoi.
Ouais. Ceci dit, après, il y a eu des avancées. Je mettrai des gros guillemets à ça, mais bon, voilà. en fait, je vais revenir très brièvement sur l'historique de la lutte trans et de la lutte. Du coup, des positions de l'État vis-à-vis de ça. Donc, en fait, entre 2003 et 2007, il y a eu les premières revendications portées par les groupes activistes trans, qui étaient formés. Donc, c'est quand même assez récent, finalement. Et ils avaient plusieurs points à leurs revendications. D'abord, la déclassification du transsexualisme de la nosographie psychiatrique, c'est-à-dire de la même manière que l'homosexualité a été retirée de l'OMS et de la classification des pathologies. La dépsychiatrisation qui conduirait à une dépsychiatrisation qui impliquerait une aide et un accompagnement à l'autodiagnostic, c'est-à-dire que le diagnostic ne serait pas serait choisi auto, en fait, déterminé par la personne qui décide de faire une transition. Ensuite, l'abrogation ou la révision du protocole médical pour avoir un protocole adapté à chaque individu et non en fonction de l'identité transsexuelle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les transidentités sont donc plurielles et qu'on ne peut pas le réduire à une seule catégorie d'intelligibilité qui assigne un parcours type qui soit, voilà, le parcours transsexuel avec des gros guillemets. Ensuite, troisième point, choisir son médecin et non s'en faire imposer. C'est-à-dire qu'en fait, le problème que soulignait Outrance, c'est que les médecins sont en général complètement ignorants, en fait, des conditions de vie des personnes trans, n'ont aucune idée de ce que peut vraiment représenter leur enjeu quotidien, et du coup ils demandent de pouvoir choisir leur médecin de la même manière que nous on choisirait notre gynéco ou notre
dentiste
ou notre ouais c'est ça voilà, tout simplement. Ensuite, une aide juridique et administrative pour ne pas condamner à la clandestinité, parce que finalement les personnes trans sont donc obligées pendant 2 ans de elle veut faire avoir recours à un changement d'état civil, de vivre dans le genre qui ne correspond pas à leur identité pendant 2 ans, c'est-à-dire subir non seulement une transphobie max plus et en plus subir un sentiment tout simplement d'inadéquation avec son identité. Ensuite, il a été en 2004, donc là c'était l'année 2003, en 2004, il a été de nouvelles demandes ont été ajoutées à ses revendications, à savoir la demande du changement du numéro de sécurité sociale et du prénom sans acte chirurgical préalable. Ensuite, l'accès aux soins sans diagnostic psychiatrique préalable. Ça, je l'ai déjà, c'est une adaptation de ce qui avait déjà été, de ce que j'avais déjà évoqué. En 2004, il y a également la création de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, voilà, mais qui, pour autant, n'a jamais intégré à son sa charte la transphobie, la lutte contre la transphobie comme discrimination. En 2007, en octobre 2007, il y a la première manif Existrance. Voilà, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais donc c'est la manifestation par et pour les personnes trans, qui se positionne évidemment contre la psychiatrisation. En 2009, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports, déclare publiquement qu'elle vient de saisir la HAS, c'est-à-dire la Haute Autorité de Santé, pour publier un décret déclassifiant la transsexualité des affections psychiatriques de longue durée. Pardon pour la citation un petit peu hésitante. Mais en fait, ce qu'explique l'auteur, c'est qu'il n'y a pas eu de dépsychiatrisation. C'est en fait une reclassification qui a été faite pour une prise en charge de personnes malades. Mais il y a juste un changement dans les termes qui est moins pathologisant, en fait. C'est-à-dire une reclassification de l'ALD, qui est l'affection psychologique à longue durée. Ensuite, le ministère, ne s'oppose pas. Ce que conclut l'auteur, c'est que le ministère ne s'oppose pas à l'évaluation psychiatrique humiliante pour savoir si une personne trans peut avoir accès au traitement hormonal ou pas. Et il perpétue cette psychologisation tout en fait étendant un petit peu plus, en dépathologisant légèrement en fait la catégorie. En 2010, il y a donc une AG trans qui a été organisée par l'appel d'Out Trans cette fois-ci et qui demande en fait. Quelles sont leurs revendications cette fois-ci? Le changement d'état civil facilité, l'individualisation des parcours, c'est-à-dire c'est une reformulation de ce que j'avais dit auparavant, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le parcours puisse être choisi par la personne concernée, les soins, le type de soins, à quel moment, par qui, et non pas imposer des identités et des catégories en fait psychiatriques a priori. Libre choix du médecin, possibilité de parcours hors centre et remboursement. Place décisionnaire des associations de personnes trans dans les centres de référence, c'est-à-dire en gros que les personnes trans puissent être elles-mêmes intégrées en fait aux procédures décisionnelles en fait qui régissent tout ça. Ensuite, en mai 2010, Bachelot annonce l'interdiction. Encore elle. L'interdiction de demander à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, de retirer le transsexualisme de la liste des maladies mentales. Voilà, ce qui n'est toujours pas fait, pour information. En 2011, la ministre de la Santé, commande un rapport pour évaluer, pour que la HAS, toujours, dont je parlais tout à l'heure, la Haute Autorité de Santé, évalue l'opportunité de création de centres de référence pour la prise en charge médicale. Pour information, ils n'ont, comme dit la personne qui a écrit l'article, ils n'ont toujours pas reçu le rapport en question. Donc, voilà, donc là, c'était le bref historique que vous pouvez retrouver sur le site de l'Observatoire des Identités. Vous tapez ça sur Google, vous trouvez ça assez facilement. Et donc l'association dont j'ai parlé, c'était Out Trans, qui milite qui est une association par et pour les trans. Je termine sur une chose, à savoir, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est quand même pour faire un petit rappel sur le, j'aime pas ce mot, retard que pourrait avoir la France et sur la pseudo idée que la France serait civilisée, parce que bon, quand on... Bref. Donc, en fait, le 31 mai dernier, en 2013, l'Australie a reconnu, en fait, a permis à Nori May Welby de pouvoir s'affirmer comme sexe neutre, de ne pouvoir s'affirmer au nom de l'administration comme ni homme ni femme. Et Nori May Welby a obtenu ça en fait après des années d'acharnement contre la justice administrative. Mais finalement, Nori a réussi à faire disparaître toute mention de sexe sur son état civil et il a finalement lui ajouté une troisième case après homme et femme. Et il y a eu 3 ans de procédure. Elle a quand même eu il ou elle, voilà, forcément je me trompe moi aussi. Il ou elle, il y elle, a eu besoin de 3 ans de procédure pour naturaliser son genre, affirmer un sexe. Donc quels sont les enjeux finalement de tout ça? Bon, ils sont multiples, on va pas y revenir en 5 minutes, ça c'est certain, mais l'idée c'est que c'est tout simplement affirmer que le sexe a une dimension davantage sociale que médicale ou que biologique, que il n'est pas que on peut pas définir une personne également avant tout par son sexe, c'est-à-dire finalement dire que le sexe est une catégorie d'intelligibilité et de définition primordiale en fait, c'est-à-dire qu'elle définit a priori quelqu'un, enfin, qu'une personne ne peut pas se définir en dehors du sexe. Tandis que c'est ce que finalement Nori a fait. Et ensuite, en termes d'identification, je cite ce que Nori disait face au journaliste que j'ai pioché sur le site du Nouvel Obs. « Je suis une composition de sexe et de diversité de genre. Je ne m'identifie pas comme homme ou femme. Je suis un humain féminin et masculine. » Et voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu également des précédents. Qu'en Argentine, en 2011, on a autorisé les individus à changer d'état civil sans avoir à apporter la preuve d'opération de réassignation sexuelle. Qu'au Népal, en 2011, on propose la case de troisième sexe. Et qu'en France, on conditionne le remboursement par la psychiatrisation. Qu'on demande que le changement d'état civil soit toujours soumis à une attestation d'un changement irréversible, c'est-à-dire à une stérilisation forcée. Voilà, j'en ai fini.
Sur ça. on va mettre une petite chanson un peu plus légère vu que c'était pas un thème, une thématique très très légère. NC Pants Vampire.
In the city, but the pretty girls don't look at me.
Don't look at me.
I don't have my fangs, cause I have lost my fangs. I am a vampire, I am a vampire, I have lost my mouth again. I am a vampire, I am a vampire, I have lost my mouth again.
So I get bone and I shred, so I popcorn and I blues and wait and I sing with my lips looking. And I want
guitars out of tune. I am a vampire and I'm looking in the CD, but the musical don't play with me.
Don't play with me.
I don't have my mouse again, cause I have lost my mouse again.
Voilà, et on est de retour pour la deuxième partie d'émission. Alors cette deuxième partie sera dédiée à un compte rendu que je vais essayer de rendre d'un séminaire qui a eu lieu le 1er juin, samedi 1er juin à 15h à la cave des Célestines, qui s'intitulait « Suite des révolutions arabes, quelle participation des femmes au changement social ?» et qui avait été organisé par l'Association des Tunisiens du Nord de la France. Donc en gros, ce séminaire qui était donc la deuxième partie d'un séminaire, un premier séminaire qui avait déjà eu lieu en 2012, posait la question « Quel changement pour les femmes ?» Et quelle participation ? Donc pas seulement pas seulement quelle participation aux femmes à ce changement social, comme l'indique le titre, mais aussi finalement quelle évolution il y a eu depuis le printemps arabe, en termes juridiques ou social, pour les femmes. Donc la première intervention a été faite par Cyrine Ismaili, qui est docteur en droit et enseignante à l'université de la Cato à Lille, et qui fait aussi partie de l'association donc qui a organisé le séminaire. Et donc cette docteur en droit est revenue, a fait une étude juridique en fait sur l'avancée d'un point de vue des droits des femmes, en partant du sommet de la hiérarchie juridique, à savoir la nouvelle constitution en Tunisie qui n'a pas encore été votée et qui est pays qui donc est toujours pour l'instant en transition démographique. Donc elle commence son intervention en pointant du doigt le fait qu'il y a déjà eu plusieurs brouillons et projets de constitution et qu'on en est encore au quatrième qui est toujours en élaboration. Et en s'appuyant en gros sur des exemples particuliers, elle montre dans son intervention comment les acquis sociaux des femmes sont mis en situation de précarité en Tunisie et en Égypte de manière générale. Pourquoi ? Parce que en Tunisie, d'un point de vue juridique, les femmes jouissent des mêmes droits qu'en France à titre purement comparatif, par exemple. Elles ont droit au divorce, à l'avortement, elles sont scolarisées à même titre que les hommes, etc. Voire, il y a même un peu plus avancé, si on peut parler d'avancée, puisqu'il y a une égalité au niveau de la transmission du patronyme. Mais il y a, de manière générale, une espèce de remise en question de ces acquis, et il n'y a pas de nouveaux droits reconnus pour les femmes, et il y a une mise en danger de ces droits avec des formulations assez particulières qui peuvent soit aboutir sur une maximisation des droits et de l'aide à la femme dans ses tâches quotidiennes. Donc par exemple, il y a des lois qui peuvent à la fois aider la femme à remplir ce qu'ils appellent les devoirs familiaux et à la fois les devoirs au travail, quoi, mais qui peut aussi être invoqué pour minimiser finalement la part de travail, enfin en gros le travail que va, enfin la femme dans son activité de travail, quoi, professionnelle, je veux dire, et pour en gros essayer de réduire cette activité professionnelle et augmenter son activité, on va dire purement familiale, quoi, en gros son devoir familial, comme on dit. Et en Égypte c'est pareil, il y avait certains acquis, mais beaucoup moins en Égypte de toute façon qu'en Tunisie. Et ils reviennent sur ces acquis où il y a carrément des articles supprimés comme l'article 62 qui donnait le droit des femmes le droit aux femmes à se représenter aux élections politiques et qui leur a été complètement retiré avec la nouvelle constitution égyptienne. Donc ça c'était pour la première intervention, donc qui était purement juridique. La deuxième intervention, donc là c'était du coup quelles évolutions juridiques il y a eu pour ces femmes, est-ce qu'il y a eu des avancées ou est-ce qu'on est au point mort, et finalement il y a pas de recrudescence de ces droits, quoi, en gros il y a pas de nouveaux acquis, voire il y a un espèce de mouvement rétrograde qui va soit mettre en danger les acquis qui ont déjà été acquis, donc soit voilà, il y a un point mort, quoi. Après, la deuxième intervention, elle était très intéressante, c'était justement sur la participation des femmes dans cette révolution. Donc elle montrait du doigt, par exemple, le gap qu'il y a entre la participation des femmes et la visibilité de ces femmes, ou leur représentation politique tout du moins. Donc cette deuxième intervention, elle était faite par Nadia Hashkimi, qui est directrice exécutive et cofondatrice de l'ATFD, qui est donc l'association tunisienne des femmes démocrates. Donc c'est une association qui lutte pour les droits de la femme et plus de représentabilité depuis assez longtemps. Et donc, par exemple, elle part du point de départ de la révolution tunisienne qui s'est déroulée dans le bassin minier de Gafsa, donc c'est à peu près au centre du pays, qui a commencé en 2008 et qui, suite à cette révolte, on va dire, s'est propagée dans tout le pays à partir de 2011 et qui a donné lieu à la révolution tunisienne. Donc, elle explique comment, à partir du... sans faire un point historique sur comment, enfin c'est quoi en gros les printemps arabes, etc. Comment, à partir du chômage, du fait qu'il n'y ait pas d'accès à certains services, etc. Et alors que la région est une région hyper hyper riche vu qu'il y a une exploitation phosphale. En gros, comment les femmes, dès le départ, à la source donc de cette révolution tunisienne, ont participé en se rassemblant de manière mixte ou non mixte pour contre la corruption et pour réclamer une forme de justice sociale. Et donc, comment ça a été finalement une manière pour elles de... Ça a été une véritable conquête de l'espace public. Et elles sont devenues, donc, dans cette révolution tunisienne, des acteurs majeurs. Et comment, par rapport à, donc finalement, comment à partir de cette participation massive des femmes, il y a eu une éviction complète au niveau de l'heure de la reconstruction du pays. Donc en gros, comment à partir de cette révolution qui a été largement menée par les femmes, en tout cas en partie, a participé finalement à leur éviction complète, notamment d'un point de vue comment dire. En gros, dans les commissions d'écriture de la nouvelle convention, comment elles sont à peine présentes, elles sont très peu présentées, il y en a une ou deux par commission. Et par ailleurs, comment cette distribution a été, comment en gros elles ont été chargées de missions qui sont, on va dire, traditionnellement associées aux femmes, par exemple la santé, l'éducation ou les femmes ou encore la vieillesse. Donc qui sont des missions qui sont de toute manière, même en France, généralement reléguées pour les femmes. Et du coup, comment, donc voilà, à partir de cette faible présence des femmes dans les commissions d'écriture de la nouvelle commission, on note un désintérêt général vis-à-vis des droits de la femme, voire enfin, en gros, comment elle a noté, donc, vu qu'elle y a participé, elle a notamment participé à des commissions, comment elle voit qu'il y a un mouvement rétrograde qui contribue absolument pas à plus d'émancipation en Tunisie pour les femmes. Elle prenait par exemple un exemple qui est celui qu'on appelle la discrimination positive, même si j'aime pas trop ce nom. Et comment, par exemple, donc c'est un principe, celui de la discrimination positive, qui part du fait que finalement, du fait de la, je l'interprète comme ça, Suzanne, tu pourras peut-être m'aider. Finalement, du fait de la division sexuelle du travail. Il y a des compétences qui sont généralement acquises plus facilement par des hommes que par des femmes et vice versa. Et en gros, la discrimination positive, ça permettrait de rétablir un peu un ordre un peu plus équitable entre cette distribution des compétences. Ouais. C'est plus ou moins ça pour moi. Ouais. Et en gros, comment au lieu du coup de mettre en place cette discrimination positive, ils partent dans le gouvernement donc tunisien actuellement. Ils basent en gros leur choix des candidats ou des candidats politiques, etc., ou des candidats à n'importe quel autre travail, quoi, sur le principe de compétence. Donc en gros, il nie complètement le fait qu'il y ait un caractère historique au fait qu'il y ait une distribution inégale de ses compétences. Et donc, par exemple, au lieu de travailler à la mise en place d'une parité en fait entre hommes et femmes au niveau des compétences et au niveau des compétences, on va dire culturelles, donc des compétences que possèdent les individus, mais au niveau des compétences aussi des responsabilités qu'on leur attribue, en gros, qu'on leur donne. Et du coup, au lieu d'essayer de mettre en place une certaine parité, ils partent du principe de la compétence, et au lieu de mettre en place une sorte de discrimination positive, ils sélectionnent en fonction de la compétence, et donc maintiennent l'ordre qui est déjà établi, qui est patriarcal. Donc en gros, cette intervention, elle pointait du doigt le fait qu'il y ait eu une grande participation des femmes et qui donc valorise aussi la compétence qu'elles ont, compétence qui est niée et pour lesquelles elles ne sont pas choisies ensuite pour réécrire la Constitution et donc participer à la deuxième partie de cette révolution et pouvoir devenir sujet de leur propre lutte et de la propre évolution, de la propre amélioration de leurs propres conditions de vie et de travail, quoi, en gros. Donc c'était une intervention qui était assez intéressante. En plus, donc cette personne, Nadia Hakimi, est une militante, donc on le sentait assez dans sa voix. La troisième intervention était hyper intéressante aussi. C'était une intervention de Sonia Dayan Herzbrun, qui est sociologue. Donc pardon si je prononce un peu mal les noms de famille, qui est sociologue à l'université Paris Diderot 7, qui a écrit un livre qui a l'air très intéressant, que j'ai pas lu mais que j'aimerais lire, qui s'appelle « Femmes et politique au Moyen-Orient ». Et qui, elle, revenait non plus sur le cas tunisien, mais sur le cas égyptien. Et là, c'était, ça, en gros, elle expliquait, enfin, c'est complètement, c'est deux cas qui sont complètement, deux pays qui fonctionnent absolument pas de la même manière, même si on a tendance à les mettre dans le même sac. Et en parlant des révolutions arabes, on a tendance à, enfin, on parle de la révolution arabe presque. Enfin non, c'est vrai qu'elle est mise au pluriel, mais en gros, c'est une expression qui exprime pas vraiment la diversité des pays et des luttes et des manières de réclamer des droits et de toute façon des conditions à partir desquelles se sont créées ces révolutions. Et en gros, elle expliquait comment finalement en Égypte la société est extrêmement patriarcale, beaucoup plus que dans d'autres pays comme la Tunisie, dans le sens où depuis la révolution de 1952, il s'est mis en place un espèce de régime qui est plus absolument patriarcal, mais qui est fratriarcale, si on peut appeler ça comme ça. En gros, elle explique comment il y a une espèce de fraternité horizontale, donc il n'y a pas de hiérarchie entre hommes qui sont tous considérés comme des frères. Donc c'est plus un pouvoir des pères mais un pouvoir des frères, donc c'est pas vraiment patriarcal, c'est fratriarcal, même si je sais pas trop si ça existe. Mais du coup, un régime dans lequel sont exclues les femmes et qui est extrêmement inégalitaire. Donc là, elle parlait notamment du taux d'analphabétisation des femmes qui est de 40%, c'est énorme. Elle parle aussi de la grosse disparité qu'il y a entre les villes et les campagnes, bien sûr, mais ça c'est un peu partout, je pense. Mais c'est très présent dans ce pays-là. Et par exemple, bon, elle cite par exemple le droit de vote qui, depuis 1956, est accordé aux femmes, mais qui est très contrôlé. Donc, elle doit faire une demande et cette demande, elle doit être acceptée. Donc, il y a un espèce de tuteur quand même, si on peut appeler ça un tuteur juridique, je sais pas, ou en tout cas politique. Et par exemple, les organisations des femmes sont interdites alors qu'elles sont censées avoir le droit de vote. Donc, il y a quelques paradoxes. Bref. Et en gros, à partir de donc ce constat, Et d'un deuxième constat que je vais vous livrer tout de suite, c'est le fait que finalement, en Égypte, l'État est très peu interventionniste et que l'organisation de la vie n'est pas organisée donc par l'État comme en France, mais plutôt par la religion, parce que du fait que l'État a une politique peu interventionniste, que ce soit au niveau de la scolarisation ou des services sanitaires, etc., il y a des associations qui ont dû pallier à ce manque, notamment les frères et sœurs musulmanes et musulmans, et qui donc ont pourvoyé, oui c'est ça, à la population des services sanitaires, et ont construit des établissements scolaires, etc., d'où le poids du religieux dans le quotidien de ces familles aussi. Et donc, à partir de ce constat-là, donc de l'importance du religieux dans la vie quotidienne, elle explique comment finalement il y a une grosse dichotomie entre un espace public qui est organisé de manière quasiment séculière et qui, en plus du fait du colonialisme, est organisé autour de structures économiques qui sont complètement occidentales et donc qui sont libérales en l'occurrence. Et à côté, un espace privé familial dans lequel l'État intervient très peu et qui est organisé de manière hiérarchique et garanti par une religion et qui est très conservateur parce que justement il s'appuie sur une interprétation du Coran qui est conservatrice. Par contre, donc comme dans les autres pays, cette révolution, elle s'est en gros. La révolte s'est levée en gros à cause de la crise économique et puis du conservatisme aussi et puis en Égypte en plus de la violence parce qu'elle expliquait que c'est un pays qui est très autoritariste. Et du coup en l'absence de justice transitionnelle aussi, il y a eu d'autres problèmes parce que par exemple il y a des problèmes qui sont posés quand on passe d'un état très autoritariste à un terrain un peu plus libéral. C'est par exemple le corps de police qui auparavant était acteur de la répression, par exemple, devient garant de la paix sociale d'un coup. Ça peut poser certains problèmes. Bref, je suis en train de me perdre complètement. Je vais vous mettre une petite musique et on revient dessus tout de suite. Yeah. Voilà, alors on est de retour. Alors pour reprendre un peu le fil de ma conversation, en gros ce que voulait pointer du doigt la personne qui est intervenue, donc qui s'appelait... Bon bref, en gros elle disait que finalement en Égypte aussi il y avait une forte participation des femmes à la révolution, mais que c'était une révolution par mais pas pour les femmes, vu qu'il y avait eu des mesures rétrogrades en termes de droits qui avaient été prises. La première intervenante était revenue dessus, notamment le droit des femmes à se représenter aux élections politiques. Et finalement, elle parle, c'est presque un hiver des femmes au lieu d'être un printemps, quoi, en gros. Et du coup, finalement, elle expliquait comment, à partir du fait que l'État n'intervient pas dans l'organisation de la famille et l'organisation quotidienne des personnes, de l'importance du religieux dans la vie des Égyptiens de manière générale, et du fait que finalement l'interprétation du Coran est hyper machiste et donc sexiste, il n'y a pas de possibilité pour l'instant d'avoir une espèce d'amélioration des conditions de vie des femmes, des conditions de travail, des conditions de représentativité politique, etc. Et comment finalement les femmes sont à une sorte d'intersection de plusieurs luttes qui sont à la fois politiques, géographiques, vu qu'en Égypte il y a quand même pas mal de disparités géographiques, de classes, religieuses, etc., qui en font finalement... pas des sujets mais des agents qui sont dans une précarité beaucoup plus importante que d'autres agents de la société, on va dire. Et du coup, par contre, pour ne pas terminer sur un goût amer, quoi, on va dire, elle repartait quand même sur quelque chose qu'elle trouvait assez intéressant. C'était l'émergence des féminismes islamiques, qui sont en gros un courant inclusif féministe progressiste, qui part à partir du modèle religieux de l'organisation de la société en Égypte, donc qui est proche de la réalité finalement de l'espace privé égyptien, et qui à partir du poids du spirituel inscrivait ça dans une lutte féministe et essayait d'améliorer la condition de vie des femmes. Donc elles sont pas à elle précisait bien qu'elles sont pas c'est pas les sœurs musulmanes, les féminismes islamiques, hein, ça n'a rien à voir. Les sœurs musulmanes, c'est une branche des frères musulmans, c'est la branche féminine des frères musulmans, mais qui est une branche ultra conservatrice et de politique et islamiste, quoi, en gros. Et donc finalement, juste pour revenir 5 minutes sur ces islamistes, sur ces féminismes islamiques, on voit qu'il est tard. On en a parlé déjà, si ça vous intéresse de revenir sur le webzine, on en a parlé avec Zahra Ali, qu'on avait vu, qui avait présenté son ouvrage « Féminisme islamique ». Ce sont des courants qui sont nés, on parle au pluriel parce que forcément c'est pas les mêmes espaces-temps et c'est pas les mêmes espaces géographiques, donc ils naissent pas de la même manière, mais c'est un courant qui au départ est né en Iran et qui après s'est propagé dans d'autres dans les mondes musulmans de manière générale, notamment à d'autres pays musulmans auxquels on pense pas, comme l'Indonésie, qui a été un des pays qui a été un des premiers pays à exprimer donc ces féminismes islamiques et à leur donner plus de voix d'un point de vue politique aussi, et qui finalement sont des féminismes qui considèrent que dans le Coran, donc à partir qui proposent une relecture des textes sacrés du Coran, et qui considèrent que l'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans le Coran et qu'il n'y a pas une sorte de subordination de la femme à l'homme qui est écrite dans le Coran, mais que cette conclusion provient d'une interprétation erronée ou en tout cas instrumentalisée, enfin politique en tout cas, du Coran qui est machiste. Suzanne, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, non mais je trouve ça... je sais pas si on m'entend là. Ouais. Non.
l'impression que mon micro ne marche pas.
Je t'entends pas, change de micro peut-être.
Ouais, là tu m'entends. Et donc du coup, ouais, non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à la réinterprétation du Coran, et c'est quelque chose que je trouve super intéressant, parce que finalement, bon, sans revenir sur tout ce que, surtout les apports que le texte de Zahra Ali peut donner, et l'intérêt qu'il a en fait dans son contenu, dans la démarche, pour des questions épistémologiques en fait, juste pour la démarche, c'est super intéressant parce que c'est une façon de revisiter un savoir, de revisiter un texte et de montrer que par une réappropriation, par une relecture, on peut détourner un sens, on peut détourner, enfin pas le détourner comme s'il avait une signification originelle en fait, mais tout simplement dire qu'un texte n'a pas une signification en soi et qu'il peut avoir être site d'une quantité de signification et que l'enjeu en fait de tout simplement de construire un savoir féministe quoi, tout simplement, et que les féministes n'ont cessé de faire ça avec la psychanalyse, avec les avec tous les, enfin pas avec pour le coup les religions chrétiennes, mais parce que c'est un autre contexte et c'est quand même très différent, mais voilà, avec les grands textes philosophiques des traditionnels, enfin bref, les féministes n'ont fait que ça, donc je pense que c'est ça se traduit tout à fait une stratégie féministe caractéristique, et je pense qu'on se tromperait en pensant que c'est complètement nouveau et que du coup c'est un peu bizarre ou je sais pas quoi. Enfin, le genre de présupposé qui pourrait investir ce genre de démarche.
Après le problème c'est que en fait en partant d'un texte on part déjà d'un produit qui est humain, ouais. Alors que là le problème qui était posé au départ c'est le fait que en théorie, le Coran, ça vient en gros du, enfin, c'est les paroles de, en gros, c'est la parole de Dieu, donc ça devrait pas être sujet à interprétation.
Oui, mais alors ça se discute en plus même dans les, parce que là on va pas rentrer dans un débat théologique, voilà, non, mais oui. Bon, ça
après,
se discute
justement,
parce que bon...
y a des féministes donc islamiques qui ont pointé ça, enfin qui en gros ont dit, enfin c'est d'ailleurs, je pense la base du des féminismes islamiques, c'est qu'il y a une distinction entre finalement la charia qui est en gros la parole de Dieu qui a été révélée au prophète, et finalement la traduction de cette parole en une sorte de jurisprudence. Je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, qui produit finalement des lois qui vont favoriser telle ou telle personne ou tel groupe de personnes, quoi. Donc en gros, il y a des, enfin c'est la base du, je pense, des féminismes islamiques de manière générale, c'est qu'elles considèrent que dès le départ, finalement, il faut que finalement, il y a pas un problème de, est-ce que c'est sujet ou pas à interprétation, parce que on peut pas s'approprier la, en gros, la parole de Dieu. Et tout ce qu'on va essayer de traduire de manière juridique à partir de cette parole-là, de toute façon, provient d'une action humaine, donc est sujet à interprétation.
Ouais. Enfin, donc finalement, ça revient au même. Enfin, voilà, quasiment, exactement. Presque. Enfin, finalement, l'idée, c'est que... Enfin, finalement, c'est que même quasiment dès le départ, toute interprétation est humaine, et que du coup, enfin, l'enjeu, c'est de détourner des interprétations patriarcales, quoi. Enfin, et puis de montrer que le texte peut tout autant avoir des potentialités féministes étonnantes.
Et voilà, exactement.
Bref.
Bon, bah, c'est tout. Si je voulais juste finir sur une dernière note de fin. Finalement, c'est quoi donc le lien entre les féminismes islamiques et ces révolutions arabes ? Il y a une auteure, donc j'ai trouvé un article qui est super intéressant dans Le Monde, qui s'appelle Théologienne féministe de l'islam. L'auteur s'appelle Stéphanie Lat Abdallah et est chercheuse au CNRS. Et en gros, elle explique comment finalement la réislamisation des sociétés depuis les années 1970 et la nouvelle vague d'islamisation, on va dire, des régimes politiques après les révolutions islamiques, les révolutions arabes, pardon, finalement a permis aussi l'émergence de ce féminisme islamique et du coup l'émergence de nouveaux courants aussi réformistes qui sont a priori pas féministes mais qui finalement englobent aussi les luttes féministes. De réappropriation des textes et de relecture de ces textes-là. Donc finalement, juste pour terminer en note de fin, même si les révolutions arabes de manière générale n'ont pas réussi ou pas contribué à une amélioration en termes juridiques et en termes sociaux pour les femmes, que ce soit en Tunisie ou en Égypte. En tout cas, en Tunisie, ça, c'est un peu plus compliqué parce que je sais pas si on peut, enfin, s'il n'y a pas un poids du religieux aussi fort qu'en Égypte. Mais en tout cas, c'est des révolutions qui ont permis de donner plus de visibilité à ces nouveaux courants féministes islamiques qui prennent en compte donc le poids du religieux dans la vie quotidienne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ben, c'est tout. On vous souhaite une très bonne nuit et puis.
On va peut-être passer à l'agenda rapidement.
Vas-y, Suzanne.
Ok, donc en fait là, très proche, enfin donc dans la semaine qui suit, le jeudi 13 et le 14 juin au théâtre de l'Oiseau Mouche, il y a donc une pièce qui s'appelle Trans d'un genre à l'autre à 20h. Ensuite le samedi 15 juin à 19h, il y a la projection de Histoire d'A à l'Univers, qui est en présence de Marielle Issartel, qui est une des co-réalisatrices du film, et également en présence de femmes ayant lutté pour l'IVG et la contraception, et d'un intervenant du planning familial. Et ensuite, enfin, le samedi et le dimanche 22 et 23 juin, il y a un stage d'autodéfense féministe pendant 2 jours qui est organisé par l'association Chez Violette, et la prof d'autodéfense féministe sera de l'association Garance, et il est donc nécessaire de s'inscrire pour les 2 jours, c'est obligatoire quoi en gros. Voilà. Je pense qu'on peut se dire bonne nuit et à dans 2 semaines.
Salut.